Il y a une prière sur la souffrance. Justement, je voudrais vous entretenir sur ce sujet ce matin. Donc, le message sera basé sur un verset dans Ésaïe 61, verset 1. L'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus citera ce même verset environ 760 ans plus tard. Nous le trouvons dans Luc 4. Le désir de Dieu a toujours été d'établir une relation avec chacun d'entre nous. Relation dont nous sommes privés depuis la décision d'Adam et Ève de mener leur propre vie loin de leur Créateur. Ainsi, le cœur de tout être humain est malade parce qu'entaché par sa rébellion envers Dieu. Chacun a donc besoin d'être libéré des conséquences du péché et d'entrer ainsi dans la réconciliation, le salut que lui offre Dieu au travers de la mort et de la résurrection de son Fils sur la croix. Une telle démarche permet à l'homme de rétablir la communion avec son Créateur et de le connaître comme Père en devenant son enfant adoptif. Le terme de salut contient aussi bien l'idée de délivrance que celle de guérison et de vitalité. On en trouve la description dans Ésaïe 53, versets 4 et 5. « Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Jésus est présenté ici comme celui qui, à la fois, pardonne nos péchés, enlève notre culpabilité et nous guérit de nos souffrances et de nos maladies. Être purifié du péché est essentiel, mais être guéri émotionnellement l'est également. On sait aujourd'hui que de nombreuses maladies trouvent leurs origines dans des problèmes psychiques non résolus. Qui peut dire qu'il n'a jamais souffert dans son être intérieur de ne jamais avoir été blessé ou offensé? Certainement personne, car souffrance et blessure morale, injustice, rejet, abus, traumatisme semblent faire partie de notre condition humaine. Mais d'où viennent-elles? L'origine du mal et de la souffrance. D'après le récit biblique, il faut remonter au tout début de l'histoire de l'humanité pour en trouver le point de départ. Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme vivaient en parfaite harmonie l'un avec l'autre et bénéficiaient d'une communion sans tache avec Dieu, leur Créateur. Plus tard, lorsqu'ils ont décidé de désobéir à Dieu pour devenir, pensaient-ils, comme lui, cet équilibre a été rompu. Ils n'étaient plus en paix avec eux-mêmes. Ils ont eu peur de Dieu au point de fuir sa présence et ont commencé à connaître des tensions dans leurs relations. Il nous est précisé qu'au départ, l'homme et la femme étaient nus et n'en avaient pas honte. Mais dès qu'ils ont transgressé l'ordre donné par Dieu, ils prirent conscience de leur nudité et ont aussitôt cherché à la couvrir. Lorsque Dieu veut venir à leur rencontre dans le jardin, ils prennent peur et vont se cacher. Ils ont honte de leur nudité. Genèse 3, verset 10. Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Avec le péché de désobéissance apparaît la souffrance. Honte et peur surgissent dans leur cœur et influencent leur comportement. La honte d'être nu et la peur d'être découvert les font fuir. Suite à cette transgression, le trouble est venu dans la relation homme-femme. L'homme accuse sa femme et la tient pour seule responsable de la faute et des conséquences qui s'ensuivent, sans prendre sa part de responsabilité dans cette situation. Il accuse même Dieu de l'avoir placé à ses côtés. accusation, rejet de la faute sur l'autre, voilà qui ajoute à la souffrance déjà ressentie. De plus, désormais, compétition et rivalité vont régir leurs relations. L'harmonie initiale est brisée. Au lieu de partager l'autorité et la responsabilité de dominer sur la création, l'homme va dominer sur sa femme. C'est le point de départ de l'asservissement de tant de femmes tout au long de l'histoire de l'humanité. Enfin, la terre elle-même va subir les conséquences de cette désobéissance. L'homme aura plus de mal à la cultiver, ce qui sera une autre cause de souffrance. On voit que la rupture de la relation entre l'homme et son créateur, suite à sa désobéissance, est à l'origine de toutes sortes de souffrances. On va en voir quelques-unes. Le rejet. Dans le cas d'Adam et Ève, le rejet s'est manifesté tout de suite. Par leur désobéissance, ils ont en réalité rejeté leur Créateur. Ils ont désiré se suffire à eux-mêmes pour devenir totalement indépendants vis-à-vis de Dieu. De ce rejet initial ont découlé le rejet de soi, le rejet de l'autre et la peur d'être rejeté par Dieu. Souffrir du rejet, c'est se sentir aimé, c'est ne pas se sentir aimé et apprécié à sa juste valeur. Le manque d'amour inconditionnel engendre le rejet. Chacun de nous a besoin d'être accepté tel qu'il est et aimé pour ce qu'il est, sans avoir à gagner l'amour des autres. Acceptons le fait que nous aimons et sommes aimés imparfaitement. Une personne peut avoir connu le rejet dès sa conception parce qu'elle n'était pas désirée ni attendue ou arrivant trop tôt ou trop tard ou en surnombre. Tel autre peut avoir été maltraité dans son enfance ou bien moins aimé qu'un frère ou une sœur. Plus tard, le rejet peut venir d'un conjoint, d'un ami, d'un supérieur hiérarchique ou d'un simple collègue de travail, au travers de leur comportement ou de leurs paroles négatives à leur égard. L'injustice. L'injustice, c'est ce qui n'est pas conforme à l'équité. Elle aussi s'est manifestée dès le début, lorsque l'homme rejette injustement toute la faute sur sa femme, sans reconnaître sa part de responsabilité dans la désobéissance. Elle s'est ensuite amplifiée à la génération suivante quand, par jalousie, Caïn tue son frère Abel sans que celui-ci lui ait causé de tort. Il était irrité car son offrande n'avait pas été agréée par Dieu, contrairement à celle de son frère. Il s'est vengé sur son frère innocent. L'injustice peut se manifester dès l'enfance par des différences de traitement important, à la maison, à l'école. Un parent qui lèse un enfant au profit d'un frère ou d'une sœur, un enseignant qui se désintéresse d'un élève, des camarades qui prennent en grippe un des leurs. On parle même aujourd'hui de jeunes qui se font racketter par d'autres ou d'enfants qui sont persécutés à cause de leur appartenance religieuse. Par exemple, l'antisémitisme. Le poids des souffrances, des ascendants. Il peut peser sur une personne. Ça peut être le cas lorsque les souffrances n'ont pas été réglées dans les générations passées. La souffrance peut alors se transmettre de génération en génération. La souffrance peut être aussi causée par des abus sous toutes ses formes. L'abus porte atteinte à la dignité de la personne, car il casse toutes les règles qu'impose le respect de l'autre. Il correspond à un usage abusif ou injuste de ses droits. Celui qui abuse profite avec excès de la complaisance ou de la crédulité d'autrui. Il peut aussi exploiter à son avantage la faiblesse de quelqu'un. Il en résultera une grande souffrance pour la personne abusée. Promesse de guérison. Dieu nous offre un salut complet. Il se préoccupe de l'être humain dans son ensemble, corps, âme et esprit. Nous prendons l'exemple de la femme atteinte d'une perte de sang, dans Luc 8, 43-48. Voici une femme malade depuis 12 ans, sans doute très anémiée, déclarée incurable par les médecins et ruinée par des soins inefficaces. Son état générait une honte qui transparaît dans toute son attitude. Certes, elle a osé se frayer un chemin dans la foule pour parvenir à toucher le vêtement de Jésus, mais elle le fait furtivement pour éviter à tout prix d'être remarquée. Lorsque le Seigneur s'arrête et demande qui l'a touchée, elle se jette à ses pieds toute tremblante, comme pour implorer sa miséricorde. En lui faisant avouer publiquement ce qui s'est passé et de quel mal elle a été guérie, Jésus voulait la réhabiliter aux yeux de tous. Non seulement elle venait d'être guérie physiquement, mais elle allait être réconciliée avec ses 12 années vécues dans la culpabilité et l'indignité. La confession publique permettait une libération au niveau émotionnel et la restauration de sa personne. Enfin, Jésus s'occupe de son besoin spirituel. En quelques mots, il l'établit dans une relation franche avec le Père, en s'adressant à elle comme à une fille de Dieu, évoquant son salut par la foi et la bénissant. Jésus savait qu'il était grand temps qu'elle expérimente la joie de se savoir pleinement acceptée et qu'elle connaisse enfin la faveur du Père. Ces derniers mots sont une invitation à goûter enfin à la paix que procure le fait de se savoir réconcilié avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Ainsi, tout au long de son ministère terrestre, Jésus se souciait à la fois des besoins physiques. Il guérissait, ne laissait pas les foules repartir à jeun. Les besoins spirituels, il délivrait les démoniaques, enseignait les multitudes. Les besoins émotionnels, par l'intérêt qu'il savait manifester à une personne en particulier, comme nous l'avons vu plus haut. Donc, je vais regarder le mot guérir en grec. Donc, il y a trois verbes. Donc le grec est effectivement plus riche que le français. Alors le verbe, excusez pour la prononciation, thérapeuo, signifie guérir dans le sens de soigner, de s'occuper de. Le verbe iao mai signifie libérer des problèmes moraux et rendre heureux. Le verbe sozo signifie mettre en sûreté, restaurer. On comprend mieux tout ce que le verbe guérir veut dire. Conséquence de nos souffrances, le caractère peut en être altéré. Une personne que les circonstances de la vie n'ont pas épargnée peut développer à la longue des traits de caractère négatifs. Ce sera sa manière de réagir face à toutes les souffrances rencontrées. La peur, c'est un sentiment de forte inquiétude qui s'empare de la personne, qui passe par une expérience douloureuse pour ne plus la quitter. Chaque fois qu'une situation similaire se présentera, cet état de frayeur peut réapparaître instantanément et de façon irréfléchie. Être dans la crainte, c'est éprouver de l'inquiétude pour un oui ou pour un non, c'est redouter sans cesse quelque événement néfaste qui pourrait se produire. Une telle attitude empoisonne la vie de tous les jours parce que le repos intérieur est devenu difficile. C'est ainsi que Satan utilise des circonstances douloureuses pour nous lier par toutes sortes de craintes. Dieu le sait bien, c'est pourquoi il a prévu dans sa parole un verset pour chaque jour de l'année qui nous exhorte à trouver notre refuge en lui, plutôt que d'être dans la crainte. J'en citerai seulement trois. À Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » En Matthieu 6, 25, 35, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Et enfin, dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » La souffrance peut conduire à un état dépressif, ou à un moindre degré, à une simple déprime, quand on a plus souvent le moral à la baisse qu'à la hausse. C'est une autre manifestation de la souffrance engrangée à l'intérieur de soi au fil des années. La Bible parle d'esprit abattu ou déprimé selon les versions. Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. La souffrance peut également engendrer une mauvaise image de soi. L'image de soi dépend du regard des autres. Elle se forge à partir de l'approbation ou du manque d'approbation des proches. Elle est liée à l'estime et l'acceptation de soi. Plus on a souffert, et moins on sera enclin à s'estimer à sa juste valeur. Les difficultés de la vie, de mauvaises relations avec son entourage, ou encore des paroles négatives, peuvent contribuer à nous dévaloriser à nos propres yeux. Un sentiment d'infériorité peut se manifester en nous. Il peut s'en suivre un manque d'assurance et de confiance en soi. La recherche de l'approbation des autres et le besoin de reconnaissance peuvent devenir le leitmotiv de la vie de la personne concernée. Cette personne n'est plus libre d'être elle-même et devient dépendante du regard des autres. Notre attitude face à la souffrance conditionne la faculté de s'en sortir. Les attitudes négatives. Certains vont nier les souffrances tapies en eux. Ces personnes peuvent devenir insensibles, dures avec elles-mêmes, et les autres incapables d'exprimer leurs émotions. Elles se sont endurcies au fil des années, au point de fabriquer des fortifications à l'intérieur d'elles-mêmes, pour se parer de nouveaux coups éventuels. D'autres, au contraire, vont s'accrocher à leur souffrance si bien qu'elle fera partie de leur identité. C'est pourquoi Jésus demandait souvent aux malades qu'il l'interpellait : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors qu'il paraissait évident qu'un aveugle, par exemple, veuille d'abord recouvrer la vue. Ce sont des personnes devenues sensibles et susceptibles, à rien les affecte. Elles sont à vif intérieurement parce que très blessées. D'autres vont chercher à les refouler. Une grande partie de notre énergie serait utilisée à cet effet, 50% au dire des spécialistes. L'attitude positive. Première étape, il faudrait accepter de faire face à la souffrance qui est dans notre cœur, si nous en sommes conscients, ou bien s'ouvrir à l'Esprit Saint pour lui laisser le soin de nous révéler nos besoins de guérison. Jésus a dit, « Quand il sera venu, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. » Jésus parlait de la vérité révélée dans la parole. Le Saint-Esprit peut aussi mettre en lumière des coins d'ombre de notre vie. La deuxième étape consiste à exprimer ses souffrances à Dieu. De la même manière que nous confessons nos péchés à Dieu pour expérimenter son pardon, nous avons besoin de lui donner notre souffrance en l'exprimant d'une manière qui sera propre à chacun pour vivre la guérison. Nous pouvons le faire seuls ou accompagnés. L'essentiel est de lâcher prise sur notre souffrance après l'avoir identifiée et avouée en quelque sorte, puis de laisser le Seigneur opérer la guérison en nous de la manière qu'il aura choisie. confesser, exprimer sa souffrance au Seigneur a un effet libérateur. Les souffrances, blessures et injustices apportées à la croix n'oppressent plus. C'est le côté rédempteur du sacrifice de Jésus qui se manifeste alors dans une vie pour la transformer. Toutefois, la guérison ne sera pas complète si l'on néglige de pardonner à ceux qui nous ont causé toute ou partie de ces souffrances. Pardon et guérison sont intimement liés. Est-ce que j'en suis ? Les psychologues et psychiatres se sont rendus compte de l'importance du pardon dans le processus de guérison de leurs patients. Pardonner signifie faire rémission de quelque chose à quelqu'un. Le mot pardonner est composé du verbe donner et du mot par, qui signifie complètement. C'est pourquoi Jésus nous exhorte à pardonner de tout notre cœur, c'est-à-dire entièrement comme il l'a fait sur la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon permet de se réconcilier avec la personne qui nous a fait du tort en ce que nous abandonnons tout désir et pensée de vengeance. Un pardon réel et authentique n'est soumis à aucune condition. Par conséquent, il libère l'offenseur de devoir venir demander pardon. Un pardon véritable libère de tout contentieux à l'encontre de la personne pardonnée. Il y a l'exemple d'une dame qui gardait de l'amertume contre ses parents parce qu'elle ne les avait jamais connus et qu'ils l'avaient abandonnée. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'elle a pu être libérée en accordant un plein pardon à ses parents inconnus. Des indices révélateurs de notre besoin de pardonner. Entretenir du ressentiment, de l'amertume ou de la rancune révèle un tel besoin. Cela peut se manifester par une indifférence affichée. Plus de relations ni même de contacts. Les ponts sont coupés. Le pardon est une nécessité qui s'impose à nous si nous voulons vivre en paix avec les autres, mais également avec nous-mêmes. En effet, le refus de pardonner va se retourner contre nous, contre nous-mêmes, et nous en serons les premières victimes. Le non-pardon brise les relations et devient un véritable poison en nous. Bien plus, le manque de pardon peut être à l'origine de problèmes de santé réels, tels que ulcères à l'estomac, migraines, arthrite, insomnie, etc. S'obstiner dans un refus d'accorder notre pardon à ceux qui nous ont blessés, entretenir rancœur et amertume contre eux donne des droits à l'ennemi dans nos vies, car nous ne marchons plus selon les principes du royaume de Dieu, mais selon ceux du royaume des ténèbres. Entrer dans la réalité du pardon. En résumé, nous pouvons dire qu'une démarche de pardon comprend les 7 points suivants. Choisir de pardonner en renonçant à toute amertume, haine ou rancune. 2. Nommer là où les personnes concernées. 3. Exprimer les griefs et les torts qui ont provoqué cette rancune. 4. Confesser ce que nous estimons être nos droits et désirs de vengeance, puis les abandonner à Dieu. 5. Apporter au Seigneur toute la souffrance ainsi causée, sans craindre nos réactions. 6. Bénir là où les personnes à qui nous venons de pardonner. Le fait de bénir la personne qui nous a offensés permet d'éviter de retomber dans le piège du ressentiment. Et enfin, aller trouver là où les personnes concernées, si nous le jugeons nécessaire et au moment opportun. Si notre démarche de pardon n'est pas acceptée, ce n'est plus notre problème. Nous sommes libres à condition de ne pas devenir amers face à ce refus. Les effets du pardon. Pardonner libère notre cœur et nous permet de nous purifier. Allégés et lavés de notre rancœur, nous pourrons désormais nous approcher du Père en toute quiétude. Ayant pardonné, nous aurons la certitude que nos prières sont entendues et nos requêtes exaucées, quelle que soit la réponse de Dieu. Le pardon accordé à ceux qui nous ont offensés facilite la guérison de notre cœur. Il libère l'action de Dieu dans notre propre vie. Ainsi, pardon et guérison ne vont pas l'un sans l'autre. Les bienfaits de la guérison du cœur. Comme nous l'avons vu, la guérison fait partie intégrante du salut que Dieu nous offre au travers du sacrifice de son Fils. Entrer dans la guérison est donc aussi important que de vivre le pardon des péchés. Un chrétien blessé risque de blesser à son tour les autres, alors qu'une personne guérie deviendra très vite une source de bénédiction. Joie et santé. Trouver la guérison dans son âme, ne plus être en souffrance à l'intérieur de soi, apporte ainsi joie de vivre et santé. Consoler pour apporter la consolation. Ayant fait l'expérience de la consolation, nous savons que Dieu peut apporter la consolation à ceux que nous rencontrons et qui en ont besoin. Bien plus, nous pouvons manifester de la compassion à l'égard de ceux qui souffrent et partager leur peine. Leur souffrance ne nous écrasera pas parce qu'elle ne trouvera plus d'écho en nous-mêmes. Libérer pour vivre l'Évangile. Paul nous dit dans Romains 12, 17-21, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne soyez pas vaincus par le mal, mais vainqueurs du mal par le bien. » Seule la guérison de notre propre souffrance peut nous permettre de répondre au mal par le bien. Et enfin, le renouvellement de l'intelligence. La guérison de nos blessures se porte aussi sur nos émotions pour les renouveler et permettre un changement au niveau de nos pensées. Prenons l'exemple d'une personne mordue par un chien. De manière irréfléchie et spontanée, elle va développer une attitude de méfiance, voire de peur à l'égard des chiens en général. Sa conclusion, c'est qu'à ses yeux, tous les chiens sont dangereux. Seule la guérison du souvenir de cet incident fâcheux permettra de modifier l'attitude de cette personne vis-à-vis des chiens. Et en conclusion, je voudrais vous faire quelques réflexions que j'ai eues pendant la prière. Donc Jésus a été enchaîné pour que nous soyons libres. Jésus a connu l'angoisse pour que nous soyons en paix. Jésus a connu l'abandon, mais il ne nous abandonne pas. Jésus a connu l'humiliation, les gifles, les crachats, pour que nous soyons restaurés dans notre dignité. Et enfin, la malédiction qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Un peu comme quand on ne veut pas que la foudre tombe sur une maison, mais un paratonnerre. La foudre tombe sur le paratonnerre et épargne la maison. Donc, la foudre est tombée sur la croix pour que nous soyons épargnés. Amen.